10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 11h précisément, une heure de commentaires, d'analyse et de décryptage d'actualité justement. Alors au sommaire de cette émission, chers amis auditeurs, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, je vous en remercie infiniment. Nous allons commencer d'abord avec l'interview du sénateur Akli Mellouli qui reviendra sur la situation à Gaza et notamment sur le climat politique du moment français, je parle bien sûr. Nous reviendrons dans une poignée de minutes avec lui justement, il sera en direct avec nous tout à l'heure. Les débatteurs influenceurs, eh bien, commenteront leur point de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention. Alors, vous savez qu'Emmanuel Macron, depuis, ne cesse que de faire des déclarations concernant l'Ukraine. Et alors, qu'est-ce que cela sous-entend ou qu'est-ce que cela entend? Que doit-on comprendre en tout cas? Vous le savez, l'Ukraine, elle, quant à elle, eh bien, les troupes, les Russes réagissent et puis ils réagissent en nombre, de ministre en ministre, et les déclarations se succèdent concernant donc les déclarations et les propos d'Emmanuel Macron. Les JO de Paris, depuis cette déclaration d'Emmanuel Macron, eh bien, vous savez quoi? C'est des annulations massives qui se déclare de plus en plus pour les JO de Paris. Est-ce un bon signal qu'on envoie? Les comptes de la France, tout simplement, eh bien, vous savez quoi? Ils sont dans le rouge. C'est un grand point d'interrogation qu'on soulève. On viendra aussi sur les propos de Marine Le Pen, qui estime que le choix de la chanteuse Aya Nakamura est une provocation faite par le chef de l'État Emmanuel Macron. Eh bien, vous aussi, au 01-53-48-3000, vous pouvez réagir, intervenir, en toute liberté d'expression. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Les informés reviennent dans un instant.
Interview, surtout l'interview avec
les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Akli Mellouli. Bonjour Akli Mellouli, bonjour monsieur le sénateur. Vous êtes là monsieur le sénateur? Je vous ai pas entendu. Ah, je vous ai récupéré. Monsieur le sénateur Akli Mellouli, bonjour.
Bonjour Abdul Farkad, bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs.
Merci d'être avec nous, monsieur le sénateur. Dites-moi tout d'abord, première question, monsieur le sénateur. Qu'est-ce que vous pensez de ce climat? Vous êtes sénateur. Est-ce que vous êtes inquiet lorsqu'on entend Emmanuel Macron, le chef de l'État, multiplier les déclarations en tant que chef de guerre ou tout simplement en tant que chef de guerre d'Europe? C'est ce qu'il veut incarner.
Oui. Bien sûr qu'on peut être inquiet parce que nous, on dit qu'on n'est pas en guerre contre la Russie. Après, effectivement, on peut entendre
qu'effectivement, on ne voudrait pas que l'Ukraine abdique trop vite ou qu'elle puisse rentrer en force dans des négociations, parce que le but, in fine, c'est des négociations. Mais quand on a une puissance nucléaire et qu'on parle d'une autre puissance nucléaire, il faut faire attention à tous les termes. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas l'escalade, parce que l'escalade ne ramène pas la paix. Donc, il y a effectivement un risque et ça, c'est de la responsabilité de l'État, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que quand qu'on veut montrer les bras, les Russes répondent de l'autre côté. Et effectivement, pour pouvoir négocier, il faut un rapport de force, mais il faut savoir monter la mesure sans forcément tomber dans l'escalade et devenir belligérant. Et donc, du coup, ça nous rend inaudibles et ça nous discrédite effectivement dans la capacité à conduire un processus de paix.
Aujourd'hui, ça angoisse beaucoup de les Français. Hein. Est-ce qu'on peut être inquiet?
Bien sûr que ça angoisse les Français. On se dit, on parle d'envoi de troupes, on parle de choses comme ça, alors que même les Américains, même d'autres, n'y pensent même pas. Ils savent très bien que c'est le risque de l'escalade. Donc il faut aujourd'hui avoir une parole forte, ferme, mais éviter de tomber dans l'escalade ou dans les menaces qui risquent de nous conduire dans une impasse.
On va parler d'un autre sujet, je sais qui concerne aujourd'hui beaucoup de nos Français, c'est la situation à Gaza. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement pour la situation à Gaza, à Rafah, tout simplement pour la Palestine, vous sénateur, monsieur le sénateur Akli Mellouli?
Alors nous, on a depuis le début de ce conflit, de cette situation, on a posé une compétition, on n'a qu'une question au gouvernement. Donc nous, on a posé une question par mois. Mercredi encore, on a posé une question pour savoir. Bon, on n'a toujours pas de réponse. Mais il semblerait que les choses évoluent depuis notre voyage à Rafah, parce que je m'entends dans le truc et donc ça me perturbe. Je m'entends un écho. J'ai du mal à...
Oui, c'est possible. Mais nous, on vous entend très bien.
Ouais, mais moi, c'est mon Nico qui me revient, donc ça me pose, ça me perturbe. Bref, donc, je disais, on voit bien que les Américains veulent déposer une résolution qui sera peut-être pas retenue, et les Français préparent aussi une résolution pour un cessez-le-feu immédiat, pour lui, ce qui est une première, hein. D'habitude, la France n'avait plus mis son veto, mais les États-Unis mettaient leur veto, et donc là, on voit bien que ça évolue. Par contre, ce qui n'évolue pas, ce qui se dégrade encore plus, ce qui est encore plus dramatique et grave, c'est la situation de la population à Gaza. On n'est plus dans le risque de génocide, on est en plein dedans.
En plein temps, on est en plein temps. Vous dites, vous savez, les pays membres de l'Union européenne, monsieur le sénateur, ils ont à plusieurs reprises appelé à une pause humanitaire immédiate dans cette enclave de la Palestine.
C'est pas une pause qu'il faut, Adil, là. C'est un cessez-le-feu immédiat, l'entrée de la CPI, de la Cour pénale internationale pour dévier le truc, parce que nous, on nous a dit qu'il fallait qualifier, on a fait de l'injonction pour que les gens qualifient de terroristes et tout ça, alors que c'est même pas dans le droit international, mais les attaques du Hamas s'indignent. Ce que les gens ont fait, parce que une vie est une vie, et là, personne, par contre, on entend beaucoup moins sur le risque de génocide. Et le génocide de Gaulle, on dit, mais vous pouvez pas dire ça, c'est pas les termes, c'est dans le dictionnaire. Et quand vous prenez les accords de Rome, de l'article 6, il coche 4 cas sur 5, hein, et donc c'est quoi? Donc à un moment donné, je pense que cette hypocrisie, ce double standard, n'honore pas les gens qui le pratiquent. Je ne crois pas qu'il ne s'agit pas d'être contre le professionnel, il s'agit de construire la paix. Et aujourd'hui, il y a aussi une histoire, il y a 75 ans quand même, d'apartheid, de colonisation. Aujourd'hui, vous êtes convivié en Cisjordanie, là, vous ne savez pas à quel moment vous allez être viré de chez vous, sorti de ma et peut-être abattu, pour qu'on prenne vos terres et vos biens. Donc c'est quand même ça, c'est une réalité. Donc il faut qu'on arrête un peu, et qu'aujourd'hui, on demande à ce que le droit international s'applique, à ce qu'effectivement il y ait un cessez-le-feu immédiat et un processus de paix qui soit mis en place avec l'Assemblée des Nations Unies, parce que d'autres ne seront pas crédibles, et qu'effectivement on cesse cet ordre. Aujourd'hui, les médecins qui sont sortis, nous on les rencontre encore, on les voit, depuis qu'on a nos déplacements à Rafah, eh bien on les voit encore, et que ce soit Raphaël Petit, Pascal André et tous les autres, Amina de Marfi, l'infirmière, on garde des échanges avec eux, on a échangé, ils nous ont montré des photos, ils nous ont montré les dégâts, et ils nous disent, il est trop tard. Donc eux, ils disent, il est trop tard. Ceux qui disent des trucs, pour eux, ils disent, il est trop tard. Vous savez qu'aujourd'hui, à Gaza, sur 3000 lits avant le conflit, il ne reste plus que 295 lits dans les hôpitaux. 295 lits pour 1,5 million de
Et vous avez raison de le rappeler, monsieur le sénateur, c'est vrai que les enfants sont les premières victimes de l'horreur. Hein.
Les enfants et les femmes.
Et les femmes.
Et les civils, les hommes civils.
Mais selon l'UNICEF, encore une fois, effectivement, les premières victimes de l'horreur, vraiment, c'est les enfants. Hein. Selon l'UNICEF.
Adil, selon l'UNICEF et selon tous les chiffres, parce que vous savez, c'est quand même Israël qui tient les registres de Gaza, hein, c'est pas les Gazaouis ne sont pas indépendants. Hein, donc je vais vous dire, aujourd'hui, il y a en 5 mois plus d'enfants tués à Gaza que en 4 ans dans tous les conflits mondiaux. Et ça, c'est les chiffres, c'est les réalités. Donc effectivement, il est urgent d'agir. La France s'était engagée à ouvrir 50 lits effectifs. 50 lits, c'est tout le monde en fait, mais ils sont pas, ils fonctionnent pas, ils ont ramené quelques...
Monsieur le sénateur, oui. Dernière question. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs qui, parmi sont nombreux, hein, seulement qui continuent de manifester, ils se posent la question, est-ce que ça sert encore à quelque chose de manifester et d'apporter ce soutien? Vous leur répondez quoi?
Est-ce que le silence sert à quelque chose? Bien sûr qu'il faut continuer à manifester, bien sûr qu'il faut le faire dignement, bien sûr qu'il faut défendre la dignité humaine. Il faut manifester pour Gaza comme on manifeste pour les Ukrainiens, comme on manifeste pour les Arméniens, comme on manifeste pour les Congolais. Il faut manifester parce que manifester pour Gaza, manifester pour les Arméniens, manifester pour les Ukrainiens, manifester pour les Congolais, manifester pour toutes les victimes de l'horreur, des guerres, des intérêts particuliers de certains, eh bien c'est manifester pour l'humanité. Et si on a un grain d'humanité, il faut continuer à parler, il ne faut jamais se taire. Quand on se tait en humanité, c'est l'humanité qu'on tue.
Merci à vous, monsieur le sénateur. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le sénateur Akli Mellouli. Merci, monsieur Mellouli. Merci, monsieur le sénateur. À très bientôt.
Merci, à très bientôt. Merci, Adil.
Merci à vous. 10h09. Vous savez quoi? On lance le face-à-face. C'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Et dans les informés des quartiers, nous sommes avec du beau monde aujourd'hui. David Libeskind. Bonjour, maître.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
Tout va bien? Vous êtes arrivé tout sourire aujourd'hui, dites donc.
Oui. Mais le matin, ça va, le vendredi matin.
Ouais.
10h, ça va, c'est correct.
C'est correct, oui. Vous avez raison. Pourquoi vous regrettez celui de 19h, c'est ça, ou qu'est-ce qui se passe là?
Non. Bah, 10h, on est en forme.
Je vais vous convoquer la prochaine fois, vous allez voir. Henri Pemo, bonjour.
Bonjour,
Henri Pemo, comment ça va?
Très bien.
Ça faisait longtemps, dites donc,
l'île de Saint-Denis. Très heureux de revenir au micro.
Bonjour, ça va, monsieur Lélu, tout va bien?
Tout va bien, tout va bien, comme le soleil.
Comme le soleil. Bah écoutez, ça fait plaisir à entendre. Karim Malou, bonjour.
Bonjour à tous.
Journaliste, entrepreneur aussi également. Comment ça va?
Ça va très bien.
Tout se passe bien.
Au plateau de. Au troisième jour du printemps, c'est formidable.
Oui, c'est formidable. Dans le micro, c'est bien encore. Hein.
La vie est belle.
Ah, vous essayez ou vous êtes bien là?
La vie est très belle.
Il est assis sur le fauteuil, tranquille, le mec qui parle au loin.
C'est formidable. Je souhaite juste, si tu es d'accord, après.
Ça, vraiment, vous êtes bien. Vous êtes tellement bien que.
De dire deux, trois phrases par rapport à cette interview, parce qu'il y a des choses qui m'ont choqué. Je souhaiterais, si tu es d'accord, de rajouter deux, trois phrases.
Il est parti, hein, donc. Il est parti, donc.
Je pourrais dire. C'est-à-dire qu'il intervient à aucun moment, ça me choque, à aucun moment il a demandé la libération des otages, c'est choquant de sa part. Deuxième point, à aucun moment il a condamné les islamistes du Hamas, c'est choquant de sa part. Et le troisième point, il dit il y a plus de morts à des enfants à Gaza, c'est scandaleux, mais il y en a cinq fois de plus au Soudan. Il y a 230 000 enfants menacés de famine au Soudan et 780 000 personnes qui sont menacées de famine au Soudan. Il n'a même pas des. Il donne des chiffres qu'il ne maîtrise pas. Alors, je suis désolé, il ne maîtrise pas son sujet. Et les chiffres qu'il donne, je trouve. Est-ce que la vie d'un musulman gazaoui est supérieure à la vie d'un musulman soudanais? Je vous pose la question aux téléspectateurs.
Alors, je ne sais pas si.
Aux éditeurs, pardon.
Je ne peux pas me permettre de lui dire s'il maîtrise son sujet ou pas.
Moi, je
sais qu'il est très engagé, évidemment, sur ces questions-là. Vous aurez l'occasion. Bah là, il est parti, donc. C'est pour ça qu'on peut pas lancer le débat comme ça, parce que
un sénateur Karim Malou qui ne condamne même pas.
Il ne peut pas vous répondre.
C'est terrible.
On organisera si vous voulez. Bah, il aura l'occasion de vous répondre à l'occasion. Paul-Antoine, bonjour.
Bonjour Adil.
Analyste, bonjour, ça va?
On rentre dans le vif du débat, donc
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est animé ici.
Ouais, c'est très animé. La guerre en Ukraine, justement, le soutien occidental pour aller au-delà des armes, c'est quoi ça? C'est une confirmation de le chef de l'état-major français. Eh bien, Emmanuel Macron, lui, il multiplie les déclarations. Il multiplie, évidemment. Il a endossé même, d'ailleurs, il incarne désormais le chef militaire en France, en Europe, ça y est, il est emporté par ça. Sauf que le soutien occidental pour aller au-delà des armes. Alors, problème, c'est que les Russes ne voient pas ça du même regard. Qui veut prendre la parole? Allez, qui veut commencer? Karim Malou.
Avec plaisir de commencer. Sur l'Ukraine, c'est un conflit qui entame la troisième année déjà. C'est pas une.
Non, mais surtout sur la situation avec les troupes. Emmanuel Macron, sa déclaration, ça embarque qui? Ça embarque toute l'Europe.
Effectivement, on a une guerre en Europe. Et il est sur notre territoire. Depuis 1989, avec la chute du mur de Berlin, on a dit que l'Europe, elle est dans un continent de paix et de liberté. On découvre que c'est complètement faux. Et donc, quelque chose de nouveau. Effectivement, il y a une guerre à nos frontières. Il faut le dire et le redire. Et effectivement, je pense, je l'ai déjà dit, que le président de la République a introduit une incertitude dans la dissuasion nucléaire en disant que aussi, nous avons l'arme nucléaire, on ne peut pas vous laisser faire ce que vous voulez. Je pense que le président de la République a raison de dire au président Poutine, à la Russie qui soutient cette guerre, qu'aussi on ne se laisserait pas faire. Donc aussi, il faut dire aussi, on est là, on existe. Maintenant, cette phrase d'envoyer les militaires, je pense qu'il n'est pas d'actualité. On n'est pas arrivé à ce stade, la France n'est pas en guerre. Mais on ne peut pas l'exclure. Donc celui qui veut l'exclure, il aura la guerre. Au fait, comme dit l'adage populaire, celui qui veut la paix prépare la guerre. Et c'est ce que nous faisons. Nous préparons la paix, on se prépare à la guerre.
Paul-Antoine n'est pas d'accord.
On prépare absolument pas la guerre. Ça fait 20 ans qu'on détruit les budgets de défense. On a arrêté le service militaire. Nous n'avons plus d'armée. Il y a un moment, il faut mettre la réalité en face. Moi, je viens d'une famille de militaires depuis plusieurs générations. Nous n'avons plus d'armée. Nos officiers ne sont pas payés. Nos soldats quittent l'armée au bout de 5 ans parce que les contrats sont catastrophiques. Nous n'avons plus d'armée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va faire quoi?
Et puis certains commentateurs diraient que la France ne tiendrait pas à 15 jours.
Ah oui, non mais ça, je vais y venir. Donc on va envoyer 1000 hommes. Très bien. Donc évidemment, ça va être un choc assez violent contre les Russes. Ça, on est bien d'accord. Mais on est prêts, nous, à avoir des cercueils, 100 cercueils, 1000 cercueils qui reviennent tous les jours? La cour des Invalides va être trop petite. Ça, je pense qu'on n'est pas prêts. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Russes, c'est une nation guerrière. Eux, ils ont 1000 cercueils qui reviennent tous les jours. Nous, on n'est pas prêts. Nous, quand il y a eu 8 soldats français, et c'était évidemment bien trop, qui sont morts en Afghanistan, ça a fait la une de Paris Match, et c'est normal, c'est des héros qui sont morts pour la France, même si la guerre en Afghanistan était évidemment mauvaise, mais on n'est pas prêts à ça. Et moi, j'en ai aucune envie. Donc,
alors
là, en fait.
Mais pourquoi il fait ça, Emmanuel Macron?
Mais parce qu'il se prend, parce qu'il veut rentrer dans l'histoire. Il a un bilan qui est catastrophique sur tout. Même les JO va être la risée, on va être la risée alors que ça devait être
la
joie. Mais si, parce que tout est lié, parce que tout est lié.
Vous flattez la force.
Mais il n'y a que la force qui existe. La force qui existe. Arrêtez de d'être dans un monde de bisounours.
Là, vous êtes en train de dire.
Mais bien sûr,
la Russie est forte. Elle est très forte.
Évidemment que la Russie est forte. Et nous, on est des nabos parce que ça fait 25 ans.
Parce qu'il faut se coucher.
Il faut se coucher.
Ah si.
Mais bien sûr que non.
Elle est forte.
Attendez, deux choses. Déjà, avant de se coucher, il fallait peut-être déjà respecter les accords de Minsk. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va aller se battre pour l'Ukraine. Très bien. Moi, je suis pour qu'on respecte la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Et ça fait partie. Donc, évidemment, on comprend le Donbass et on comprend l'Ukraine. Mais quid du Kosovo? Pourquoi on n'est pas allé se battre pour l'Irak en 2001, on refait les 20 dernières années d'un libéralisme politique qui nous a détruits et qui fait du double standard, et le sénateur en parlait avec grande justesse. Il y a un double standard, et ce double standard, on en a ras le bol.
Non, il faut qu'on l'entende quand même. Il y a l'élu de l'île Saint-Denis quand même, Henri Pommeau, et notre avocat.
Moi, si je peux me permettre, je suis d'accord avec le postulat de départ sur les dépenses militaires.
Vous êtes d'accord avec qui? Avec Karim ou Paul?
Non, avec Paul. Maintenant, dans la réalité qu'on est en train de vivre, on a quand même un conflit armé qui est aux portes de notre territoire, Union européenne.
Vous êtes d'accord avec les deux?
Donc, mais juste pour reprendre l'histoire. Et surtout, on a un président russe qui a construit toute sa stratégie sur le fait que les Occidentaux n'iront jamais à la guerre. Donc, à la guerre.
On a un problème avec votre micro, je crois. Si vous voulez bien prendre l'autre, effectivement. On est en direct et effectivement, je crois qu'il a un petit souci.
Est-ce que c'est mieux?
Ça marche bien.
Super.
Très bien.
Et donc, on a un président russe qui a construit sa stratégie sur le fait que les Occidentaux n'iront jamais. Donc, moi, je peux comprendre, même s'il faut faire toujours attention sur les termes tactiques qui sont employés par le président de la République, mais je peux comprendre qu'il faille une voix européenne qui résonne. Et si c'est celle de la France, c'est tout à son honneur. Maintenant, ce qui est désolant à mon sens, c'est qu'il n'y ait pas une absence de il y a une absence de concertation entre toutes les parties européennes, et surtout pas du tout de consensus avec les Américains. Mais vraiment, aujourd'hui, avant de parler de tous les autres conflits, et moi je me sens concerné par tous les conflits du monde, il faut se rappeler que l'Ukraine, c'est vraiment à quelques kilomètres de certains de nos voisins de l'Union Européenne. Donc peut-être que nous, de la France, on voit un peu plus loin, mais juste à côté, il y a nos voisins qui font partie de notre famille Union Européenne, qui sont juste à côté de ce qui est vécu par les Ukrainiens.
Maître David Libeskind, alors, avant de marquer la pause.
Alors, moi, je suggère à Emmanuel Macron, comme il veut s'autoproclamer chef de guerre dans la continuité du général de Gaulle, de Napoléon, qu'il aille sur le terrain. Hein. Napoléon, en fin de compte, il allait avec ses hommes sur le terrain, donc qu'il aille en Ukraine combattre la Russie. Non, mais faut être sérieux, en fin de compte. Est-ce qu'un pays membre de l'Union européenne a été attaqué? Est-ce qu'il a été envahi par des Russes actuellement?
La réponse est non.
Est-ce que un pays membre de l'OTAN a été envahi?
La réponse est non.
La réponse est non. Donc, regardons.
C'est comme ça en 38.
Regardons l'histoire européenne, ce qu'on a fait avec le droit international, puisque tout le monde, en fin de compte, pour le grand pistro palestinien.
En même temps, Henri Pommeau, il a raison.
Je ne suis pas sûr que les Polonais pensent comme vous. Les Polonais qui sont juste à côté. Les Tchèques qui sont juste à côté pensent comme vous. Que les Bulgares qui sont à côté pensent comme vous aussi.
Je ne vous ai pas interrompu, merci, un peu de respect. Est-ce que la Russie a déclaré la guerre à la France? La réponse est non. Donc, on n'a aucune raison, en fin de compte, d'aller en Ukraine, même si on est un petit peu co-belligérant, puisqu'on fournit des armes, faut quand même le rappeler, à l'Ukraine. Et il y a 80%, écoutons les Français.
Je lance la pause et on se retrouve, je vous redonne la parole. Promis, on fait un tour de tabac tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Je peux vous dire que c'est animé, y compris pendant la pause, hein, chers amis auditeurs. Allez, je lance le jingle auditeur. Je voudrais vous entendre, y compris votre point de vue sur les sujets qu'on vous a proposés. 01 53 48 3000, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Il est 10h26, nous sommes avec Henri Pommeau, avec Maître David Libeskind, avec Karim Maloum et enfin avec Paul-Antoine David. Maître David Libeskind, je vous redonne la parole, ensuite celle de Karim Maloum.
Ben c'est simple.
Avant de passer au second sujet.
Tous les sondages le disent, 80% des Français sont contre l'envoi de troupes française en Ukraine. Donc pour moi, la question ne se pose pas. Après, Emmanuel Macron, bon, il fait comme il a fait pour la réforme des retraites. Il contourne en fait la volonté populaire. Il fait signer un traité de sécurité avec l'Ukraine parce qu'il sait que de toute façon, en regard du droit international, il ne peut pas intervenir légalement. Et donc voilà, c'est... Mais bon, quand les fils et les filles de France, alors les fils plutôt peut-être, iront se battre en Ukraine, bah, peut-être là, Emmanuel Macron comprendra. Et en plus, bon, c'est un des sujets qu'on
ça
va évoquer.
Ça vous fait sourire, j'ai vu.
Envoyer des milliards à l'Ukraine, je crois que c'est pas le moment, quoi.
Car il nos finances. Il faut qu'on avance.
Oui, on avance rapidement, je pense. On va revenir aux fondamentaux. Vous venez de dire, monsieur, la France va pas violer le droit international. Je suis d'accord avec vous, mais la Russie a violé le droit international et l'a agressé un pays et l'a violé ses frontières.
Ah oui, mais ça, je suis d'accord. Ah, ça, y a pas de
donc
soucis.
La solution, c'est le départ.
Est-ce qu'ils ont agressé la France?
Je ne sais pas couper.
Donc la solution, c'est la France. Donc on n'a aucune raison, en fait, d'intervenir militairement contre la Russie.
Écoutez, on a aucune raison. Franchement, vous êtes en train de noyer le poisson. Je pense que le discours du président de la République. Il a un discours de dissuasion nucléaire. Il y a 4 pays au monde qui ont ce discours. La Russie, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Ils ont 4 discours. Ils ont des puissances nucléaires. Et le président de la République a tenu ce discours, ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Je l'avais dit la dernière fois sur ce plateau. En fait, il a introduit une incertitude dans la politique de la Russie. Cette incertitude...
Alors pourquoi il a fait un traité avec l'Ukraine alors ?
Vous me coupez, s'il vous plaît.
Non, mais c'est pas de dissuasion nucléaire qu'on parle, c'est l'envoi de troupes militaires.
Non.
Le français, ils se battent en Ukraine contre les Russes.
Ce que vous ne comprenez pas, monsieur, le langage de dissuasion nucléaire, il est codé. On envoie les soldats d'une façon de dire j'ai l'arme nucléaire. Parce que la France ne peut pas rentrer en conflit avec la Russie. C'est-à-dire que c'est la troisième guerre mondiale, même c'est la fin de l'humanité. Mais tout le monde le sait, celui-là. Mais il faut montrer, parce que vous êtes en train de flatter la force. Vous dites Poutine, il est fort, on ne peut rien faire. Vous flattez la force. Non, il ne faut pas la flatter. Il faut l'arrêter. C'est ça un démocrate, un républicain. C'est ça un humaniste. Il flatte parce qu'un guerrier comme Poutine, si vous ne l'arrêtez pas, est un expansionniste et c'est un impérialiste. Il va continuer. Il va attaquer la Moldavie, il va attaquer d'autres pays, et la Pologne est à la frontière, et les Polonais...
Qu'est-ce que vous en pensez, fils de...
Attends, je termine. Juste, non, si réellement on est convaincu, il faut me démontrer que Poutine n'est pas un impérialiste.
Non, mais
c'est
là,
un
fait,
impérialiste. Et quand il va se il va attaquer,
dans des hypothèses, pas sur une
c'est
réalité.
Normal. Mais même le président de la République, il intervient dans une hypothèse d'un...
Non, je termine.
Dans une hypothèse...
Terminez vite, Karim, parce qu'on n'a pas le temps.
Je le dis, pour faire la paix, il faut préparer la guerre.
J'ai une question qui est très simple et je crois que sur Beurre FM on a pas mal d'auditeurs qui sont français mais d'origine marocaine ou algérien par exemple. Moi mon grand-père était militaire de carrière, il a fait la guerre d'Algérie. Il a fait la guerre. Qui faisait la guerre ? Il y avait l'armée de métier évidemment, il y avait les conscrits derrière. Qui va aller faire la guerre demain ? C'est vous, c'est moi. Ouais. C'est les jeunes des quartiers, c'est les jeunes paysans, parce qu'ils ont plus de boulot, les paysans. Donc, il faut bien qu'on leur retrouve un boulot.
C'est vrai qu'on a tendance à oublier les jeunes des quartiers. Ils sont militaires.
Qui vont faire la guerre.
Il y a beaucoup.
Mais là, je parle de ceux qui sont pas militaires.
Oui, sûr,
tous ceux qui sont qu'ont du sursis, tout ça. Bah, les gars, vous allez à l'armée maintenant. Mmh. Et puis, vous allez mourir en Ukraine.
La réalité, elle est là.
Je veux bien qu'on parle de guerre. Non, mais si on envoie des troupes en Ukraine, les Russes répondront.
C'est un vocabulaire, monsieur, que vous ne maîtrisez pas de dissuasion nucléaire. Vous n'arrivez pas à comprendre que la dissuasion nucléaire, il y a un langage. C'est-à-dire, monsieur, si vous n'arrêtez pas, on existe, on a des soldats. C'est un discours.
Si on envoie. Non, mais on parle, les générales Desportes hier parlaient d'envoyer 20 000 hommes, les femmes, les fils et les filles. Sur les filles, j'attends Madame Rousseau qui nous parlera. Ouais. C'était gratuit, désolé. J'attends
c'est vraiment
ça.
Nul.
Oui, bah c'est
vraiment nul.
Je suis nul.
Part.
Mais je suis nul. Donc moi, j'attends. On parle d'envoyer 20 000 hommes. Les Russes, ils vont pas laisser les 20 000 hommes.
Le président de la République n'a pas décidé d'envoyer 20 000 hommes. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge.
Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Schill, l'a dit.
C'est le président qui décide.
Bon, très bien.
Il l'a pas dit.
Bon, donc, qui vire son chef d'état-major de l'armée de terre.
Bon, c'est vrai que le chef d'état-major a parlé de ce 20 000
hommes. Il a parlé de 20 000.
Je pense que vous l'avez bien dit, ça reste du conditionnel, ça reste de la communication militaire.
On montre les forces, tout.
Et je pense vraiment qu'il ne faut pas oublier qu'on a une personne qui est expansionniste, l'histoire l'a montré avant, dans l'histoire russe, et que dans sa vision des choses, personne ne va l'arrêter. Donc, dans la communication, si on n'est pas déjà en train d'anticiper que c'est possible, que
c'est lui qui te l'a dit.
Je vais juste finir. Mais non, mais,
je sais pas, peut-être t'as rencontré Vladimir Poutine.
Non, c'est pas du tout. C'est Vladimir Poutine.
Conquérir la Pologne,
non, mais c'est Vladimir Poutine qui le dit. Enfin, faut regarder.
Ah non, non, il dit pas.
Vous êtes en admiration avec la force de Poutine.
Non, bien sûr,
il
dit. Non. Je pense que dans l'histoire,
s'il vous plaît, chacun un tour de rôle.
Je pense que dans l'histoire, sa vision expansionniste, c'est pas moi qui le dis. C'est lui-même par sa politique, donc ça c'est déjà c'est de l'histoire, c'est pas Henri Pémon qui le dit. Et la deuxième chose, c'est, et je vous pose la question à tous, si on avait un conflit au Royaume-Uni qui n'est pas de l'Union Européenne, est-ce qu'on se sentirait concerné? Je vous pose la question.
Bien sûr. Alors, monsieur, les Anglais ont bien intervenu pour les libérer en 1945.
Il est 10h30. Nous sommes des Européens. C'est la continuité du sujet. Vous savez, il y a les JO dans quelques mois.
On n'est pas des lâches.
Dans quelques mois,
c'est défendre la démocratie et nos libertés. Et ça joue en Ukraine nos libertés.
Les JO de Paris, vous savez quoi? Il y a des inondations massives. Massives, je le vois. C'est le site TF1 Info qui l'a cité en premier d'ailleurs. Depuis qu'évidemment, alors Emmanuel Macron aurait provoqué une chute des réservations pour les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que c'est un bon signe, ça, Paul-Antoine, pour la France? Qu'on envoie.
Alors, sincèrement, je mets pas en doute les infos de TF1, sincèrement pas, mais je sais pas, c'est tout nouveau. Faut peut-être attendre un peu. Sincèrement, là, pour le coup, je vais défendre Macron, je vais pas l'accabler, parce que je pourrais dire, ah bah oui, vous voyez, machin, etc. Donc, je dis juste, encore une fois, je crois TF1, c'est pas le sujet, mais faut peut-être attendre un peu, faut peut-être attendre un mois, deux mois, pour qu'on ait un peu de recul.
C'est peut-être faux, hein, j'en sais
pas. Non, mais je dis pas que c'est faux, je dis juste qu'il faut peut-être.
Si c'est un sujet.
Faut peut-être attendre un peu, peut-être que dans un mois, deux mois, on aura plus de recul. Ce que je peux juste te dire, et je terminerai là-dessus, après je laisserai la parole, c'est sûr qu'une économie ne peut pas vraiment marcher quand on a un discours belliqueux. Et faut pas oublier d'où on vient. J'ai plus les dates en tête, mais il y a 3-4 ans à peu près, c'était les Gilets jaunes. Ça faut pas l'oublier. Tous les week-ends sur Paris, on est pour ou contre les Gilets jaunes. C'est pas le sujet. Je vais pas débattre sur les Gilets jaunes. Mais bah, il y avait des manifestations, il y avait les casseurs, il y avait tout. Ensuite, on a eu le Covid. Maintenant, on a l'Ukraine. Moi, je suis chef d'entreprise. Oui, très clairement, on a quand même beaucoup de gens qui sont dans un climat d'incertitude et c'est pas très bon pour l'économie. Ça, c'est une évidence.
Au fait, sur les Jeux olympiques, le comité olympique a publié un communiqué hier. Il a rappelé à l'ordre de la Russie. Parce que la Russie veut organiser des jeux parallèles en septembre. Donc, un peu, il veut faire un peu. Donc, il ramène la guerre. Parce que, avant tout, les Jeux Olympiques, c'est l'amitié entre les peuples. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas y aller sur ce terrain. Et la Russie prépare des jeux pour septembre. Et c'est là où l'idée, il y aura des. C'est la propagande russe. Il y aura beaucoup de boycotts. À ma connaissance, il n'y a aucun État. Aucune délégation n'a communiqué, boycotter les Jeux Olympiques à Paris. C'est la propagande russe qui inonde les réseaux sociaux. Je pense le comité olympique va prendre des décisions cette semaine. Si la Russie organise les Jeux en septembre et prendra des sections fortes contre toutes les personnes qui vont participer à ces Jeux.
Maître David Libeski.
Okay, donc c'est la propagande russe encore.
Ce que tu dis, c'est une fake, parce que je crois que les athlètes russes ont été interdits, leur délégation ont été interdits pour l'ouverture des Jeux, de défiler avec les autres. Donc,
confirme.
Voilà, et ça c'est établi. Donc ce que tu dis, c'est vraiment une fake. Il faut comprendre peut-être la réaction de la Russie. Parce que bon, la guerre, en fait, c'est Poutine qui l'a fait. Hein, on est contre, évidemment, c'est pas de problème, mais c'est pas le peuple russe. On n'a pas, en fait, à sanctionner
absolument,
et à pénaliser... le peuple russe. Après, concernant ces annulations, je crois qu'il y a ADP du Midi qui a fait un papier là-dessus, il me semble. C'est pas vraiment vrai, apparemment. Bon, il y a beaucoup de fakes. ADP du Midi dit que c'est la propagande russe qui a donné cette information. Mm-hmm. Après, on verra. Mais après, c'est sûr se mettre à dos, en fait, quasiment la moitié de l'humanité, parce qu'il n'y a pas... La Chine soutient la Russie, même si elle ne le dit pas ouvertement. Les pays du BRICS, la plupart soutiennent aussi la Russie. Donc c'est sûr que se mettre à dos la moitié de l'humanité en ayant un discours belliqueux peut effectivement conduire en fait à des annulations de réservations, ce qui peut se comprendre.
Henri Pommeau.
Alors, avec des pincettes, parce que pour l'instant, j'ai vu aucun élément factuel qui vient confirmer ça. Et c'est vrai que quand on analyse certains indicateurs, que ce soit dans les secteurs de l'hôtellerie ou dans le secteur de l'aérien, il n'y a aucun indicateur qui vient montrer un affaiblissement durant ces périodes-là. Et quand on sait que ces secteurs sont quand même des bons signaux en amont de ces événements, pour l'instant, j'arrive pas à voir d'où ça pourrait, d'où cet affaiblissement.
Affaire à suivre, effectivement. Donc, on va suivre ça de très très près parce qu'il s'agit quand même des JO et c'est la vitrine de internationale, hein. Donc, concernant de la France, bien sûr, internationale. Alors, les comptes de la France sont-ils dans le rouge? L'inquiétude au sommet autour de ce déficit du public. Vous savez quoi? Ça vous fait sourire, mais oui, la finance est dans le rouge. La France est-elle, je poserai la question, et oui, elle doit se poser, est-elle au bord du gouffre, chers amis? Pause et on se retrouve tout de suite après. À tous.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et le débat, allez, on est en direct, 10h43, messieurs, nous allons parler des comptes de la France. Les informés avec Henri Pomeau, avec Maître David Libeskid, avec Karim Maloum et enfin avec Paul-Antoine, 0153483000, n'hésitez pas à nous joindre pour évidemment intervenir. Alors, est-ce que la France est au bord du gouffre, chers messieurs? Et je vais ouvrir l'antenne, tiens. Karim Maloum.
Oui. Nos déficits pèsent sur notre crédibilité en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, la France donne 4 indicateurs économiques pour dire la catastrophe économique qui est devant nous. 1. La France est championne du monde des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire on bat le record mondial des impôts. Première hypothèse. Premier point. Deuxième point. Nous sommes championnes du monde de la dépense publique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter la dépense. Et vous entendez, les Français disent il n'y a pas beaucoup d'argent en éducation nationale, dans la police, dans les hôpitaux. Mais en même temps, on est champion du monde de la dépense publique. On bat le record depuis sur les 30 dernières années d'un déficit commercial de 100 milliards. La balance commerciale est déficitaire de 100 milliards. C'est-à-dire qu'on on importe plus qu'on exporte. Le quatrième point, on a une dette qui dépasse les 3 000 milliards. Et que les intérêts de la dette, en 2020, ils étaient de 20 milliards. Et pour 2026, elle passera à 70 milliards. C'est-à-dire que nous allons sortir 50 milliards. Mais d'où? D'où on va sortir les 50 milliards? Et puis le gouvernement ment. Quand il dit on a besoin de 10, on en a besoin de 20 pour un peu l'administration.
Donc vous confirmez que les comptes sont dans le rouge.
Je termine après. Plus 50, ça fait 70 milliards, il va les trouver où? Et plus, on vient d'avoir les chiffres de déficit public. Il est à 5,6. C'est énorme.
C'est énorme.
Aucune marge de manœuvre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire le gouvernement?
Alors, on est au bord du gouffre ou pas?
Comment?
On est au bord du gouffre?
Au fait, non, c'est une grande économie, c'est une puissance de la France. Mais seulement, c'est les décisions politiques qui peuvent heurter
beaucoup
de gens.
Est-ce qu'on est dans le rouge ou pas?
Bien sûr, on est dans le rouge.
On est dans le rouge.
Mais par contre, on a des marges de manœuvre. C'est-à-dire que la France, il est capable de faire, la démarche de manœuvre de faire. C'est-à-dire que, il faut continuer à se battre contre la fraude fiscale, parce qu'on a récupéré 15 milliards et se gargarise d'avoir récupéré 15 milliards, on en a 150 milliards de déficit, on peut y aller sur ce terrain. 2, il faut moderniser nos dépenses publiques, il faut les moderniser. Vous savez, sur les gens qui nous écoutent, sur les allocations familiales, 40% des allocations familiales, de la somme allouée, n'est pas touchée par les locataires. Elle part dans la distribution, dans la gestion. Vous voyez qu'à l'heure du numérique, on passe 40% des allocations familiales. Donc, si on veut aider les gens faibles, les gens nécessiteux, il y en a des pauvres dans ce pays. On a 40%. Non, des milliards qui partent dans tout. Donc, voilà un peu la situation.
Non, mais
après, je reviendrai.
C'était très clair. Merci beaucoup. Très clair. Paul-Antoine, et ensuite, on fait un tour de table.
Sur le constat clinique qui a été fait, je suis entièrement d'accord. Alors, moi, la dette, pour moi, c'est un peu moins problématique parce que ça peut se générer, mais sur les quatre points, je suis complètement d'accord.
Je parle des intérêts. Hein.
Oui, les intérêts, oui, ça je suis d'accord. Mais je suis globalement d'accord. Moi, je pense qu'on est dirigé depuis 30-40 ans par des gens qui n'ont jamais créé une entreprise, qui n'ont jamais pris un seul risque, qui du coup ne savent pas ce que c'est que faire un risque. Moi, j'ai créé ma société, j'ai quitté un emploi stable, et je crois que je suis pas le seul sur ce plateau, apparemment, à avoir fait ça. En France, on n'est pas aidé. Il y a un moment, faut arrêter. On parle de la Startup Nation, mais c'est une catastrophe. Voilà, merci de me donner les mots polis. C'est une catastrophe. Donc, en fait, il faut créer de la richesse. La France ne crée plus de richesse. L'État, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est faire des impôts. Donc, ils vont nous faire des impôts. Ça y est. Je suis pas le seul chef d'entreprise ici. On est taxé à 50%, on va être taxé à 55%. Et puis voilà.
Non, mais si, c'est une réalité.
Je veux pas dire non, mais c'est une réalité. Et il y a deux problèmes avec ça. En fait, il y a un moment, on est dans le rouge. Je suis entièrement d'accord. Encore une fois, avec ce qui a été fait. Pour moi, on sera vraiment dans le rouge quand les gens comme nous, les chefs d'entreprise, les jeunes diplômés quitteront la France. Moi, j'ai fait mes études à l'étranger en partie. Sur tous les Français qu'on était, il n'y en a aucun qui sont revenus. Je suis le seul à être revenu parce que j'ai créé ma société en France. Donc, je n'avais pas le choix. Si je peux partir, je pars. Ça, c'est très clair. Et j'ai rencontré... Mais c'est chronique de ça.
Ça, c'est à se barrer.
Ah oui, moi complètement. Et je terminerai là-dessus. J'ai rencontré l'ancien ministre du redressement productif. Ah mais complètement. Qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, l'ancien ministre du redressement productif.
Il y en a plein.
Oui, non, mais le tout premier.
Oui, vous avez raison.
Oui, l'ancien avocat.
Avocat, exactement.
Qui est très bon. L'ancien avocat. Voilà, bon, bref.
Excellent d'ailleurs.
Voilà. C'est ce que je lui dis. Alors,
il
m'a dit.
Non, il est là.
Oui, mais non.
Arnaud Montebourg,
merci. Voilà.
Donc, qui est très bon.
Qui est excellent. Mais alors, il a essayé de m'expliquer que si, mais machin. Et encore une fois, j'ai rien contre lui. Il est excellent. Mais le fait qu'il ait dû quitter le gouvernement, ça prouve qu'il était en minorité. Ça prouve qu'il était, lui, bon dans un gouvernement de technocrates. Qui ne comprennent pas Monsieur Hollande. Je vais même pas tirer sur l'ambulance, mais Monsieur Hollande, il a jamais eu de métier. En fait, être haut fonctionnaire. Non, mais c'est vrai. Mais je suis désolé. En fait, il y a un moment, c'est pas un métier. Et je terminerai vraiment là-dessus. Aucune critique personnelle. Le filleul de ma mère fait polytechnique. Un type très bien, formidable. Il sait qu'il commencera sa vie à 10 000 balles par mois. Il sera jamais au chômage, ce mec-là. Parce que, et c'est un génie, hein, intellectuellement, il me surpasse, c'est pas ce que je dis, hein, attention. Mais en fait, parce qu'en France, on a tué le roi en 1789, on a aboli la noblesse, mais on n'a pas aboli certaines noblesses. Et on en garde des noblesses. C'est-à-dire que vous faites une école qui s'appelle l'ENA, qui s'appelle Polytechnique, vous êtes très bon et c'est très bien. On en a besoin. Moi, je suis contre fermer l'ENA. Et vraiment, je termine là-dessus. Par contre, ces gens-là sont invirables.
Ouais.
Ça en fait des déconnectés.
Ça soulève de vagues questions. Ouais. Henri Pommeau.
Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. On est dans le rouge. Ça, c'est le premier point. Là où je pense que le débat va enfler dans les prochaines semaines, c'est que la situation alarmiste qu'on connaissait déjà depuis plusieurs années, parce que ça date pas d'aujourd'hui, c'est l'impact d'une trentaine d'années de même politique, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Ben, il n'y a pas longtemps, on avait des taux bas. Donc, on pensait qu'on pouvait aussi aller chercher de l'argent sur les marchés assez facilement. Ce qui est de moins en moins le cas. Donc, du coup, déjà, l'impact sur les intérêts est beaucoup plus important. Donc, comme pour n'importe quel particulier, ça commence à faire mal au portefeuille. Le deuxième point, c'est qu'on a la fin aussi du quoi qu'il en coûte. On a été dans une situation qui était particulière.
Qui s'est plutôt bien débrouillé, d'ailleurs, la France Macron, on peut lui dire ce
qui
qu'on
s'est
veut.
Bien, qui s'est débrouillé.
Il a sauvé des emplois. Il s'est bien débrouillé.
Socialement, et c'est ce que les gens peut-être sous-estiment.
Le quoi qu'il en coûte,
mais financièrement, le quoi qu'il en coûte, coûte.
Ouais, bien sûr. Mais ça a sauvé des millions d'entreprises,
mais
c'est important.
Mais derrière, quand on va parler de maintien du budget en bon père de famille, on voit bien que derrière, il y a un rattrapage sur le déficit.
Vous avez raison.
C'est ce qui fait, et c'est là où ça devient de plus en plus grave, qu'on arrive dans les avant-derniers pays d'Europe.
Est-ce que je peux ajouter un indicateur
dans les avant-derniers pays d'Europe? Juste pour conclure, la France est avant-dernière dans les classements.
Ouais. C'est pour se respecter, parce que sinon, ça devient... C'est un peu mon rôle aussi. Hein. Maître David Libeski.
Alors, tu parlais du déficit de la balance commerciale. En fait, c'est la catastrophe depuis qu'on a créé une union... Enfin, pas créé une union européenne, mais depuis l'acte unique européen de 86. En fait, l'Europe économique qu'on nous a vendue pendant des années et des décennies, en fin de compte, nous a mis dans une situation catastrophique. Ouais. Avant... Je vous rappelle, en 86, le déficit commercial était excédentaire. Hein, ça veut dire que la France exportait plus qu'elle n'importe.
Absolument.
Hein, d'accord. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion.
Dans le gouvernement, il était excédentaire.
Il y avait une bonne... mais c'était la conjoncture économique.
Mais il était excédentaire.
Voilà. Alors, ça, c'est un premier point. Deuxième point, je crois qu'on est le deuxième pays, me semble-t-il, qui a distribué cette année, en 2023, le plus de dividendes. Je crois qu'il y en a eu pour 80 milliards. Donc, il faudrait aussi peut-être, en fait, rétablir une équité sociale, une équité fiscale, en taxant ces super profits. Parce que effectivement, on est endetté, mais il y a aussi l'argent à récupérer. Comme tu dis, il y a également la fraude fiscale des multinationales et les multinationales, en fin de compte, qui font de l'optimisation fiscale, qui ne payent pas leur impôt en France. Après, pour moi, c'est pas catastrophique. Les Français, ils sont pas endettés, hein, ils ont une grosse épargne. Hein, je crois que même l'épargne confondue des Français,
très juste,
suffiserait à résorber.
Vous avez raison. Juste deux choses. Il y a quelque chose qui sort parce que
l'ordre, il y a un emprunt d'État rapidement.
Un indicateur que j'ai oublié, mais parce qu'il fallait donner la parole, le plus dangereux de tous, c'est le chômage qui augmente. Quand le président de la République est arrivé en 2017, le chômage était à 9,1%. Mmh. On est passé de 7% selon la Banque de France, je cite mes sources qui sont sorties la semaine prochaine, qu'en 2024, là, en décembre, on sera à 7,8%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en 2025, on sera déficitaire.
Oui, oui et non.
Ah, si. Le chômage augmente depuis deux ans.
Oui,
il augmente. C'est-à-dire qu'il augmente. On parlait du plein emploi, ça fait quelques mois.
On a connu le chômage.
Et
puis
c'est terminé. Donc on peut revenir. Oui, c'est vrai. On peut revenir dans un chômage de masse. Je vais dire juste, heureusement. Exactement. Heureusement, dans cette situation, il y a l'euro. Je pense que je contredis ce que vient de dire. Si on n'avait pas l'euro, quand vous avez tous ces indicateurs rouges, et bien votre monnaie, elle va dégringoler. Ah, et quand la monnaie dégringole, qu'est-ce qui se passe? Vos entreprises sont achetées. Non, donc heureusement, on a l'euro, et nos entreprises sont toujours là.
Non, mais c'est toujours
si déjà on n'avait pas
heureusement, on a l'euro qui
pas forcément de,
c'est l'euro qui nous change, voilà. Qui nous sauve dans cette affaire.
Sauf que l'euro, là, en ce moment, oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Non, mais c'est toujours.
Et vous parlez de chômage, et c'est vrai, effectivement, ceux qui sont les plus touchés aussi, c'est les jeunes.
Absolument. Oui,
ça, c'est la nouveauté, quand même.
Juste peut-être, Adil.
Henri Pomo.
Ouais, juste parce que les jeunes sont plus touchés par le chômage, mais au-delà de ça, même les jeunes actifs sont plus pauvres qu'il y a une quinzaine d'années.
Exactement.
Enfin, il y a une quinzaine d'années,
c'est vrai.
Parfois, vous pouviez aujourd'hui avoir le même salaire d'entrée que quelqu'un qui sortait
vous
il y a 15
ans. Vous savez quoi, finalement, pour longtemps, il a raison, il faut tous faire polytechnique, et puis voilà, on est tranquille.
Non, non, polytechnique, Adil, il faut créer des entreprises. Il faut créer des entreprises.
Allez, vous pouvez parler, on fait polytechnique, on fait l'ENA, on touche 10 000 euros dès notre sortie de l'école.
C'est l'impasse.
En gros, c'est ce qu'ils proposent. Il y a besoin que propose. Ah bah, allons-y tous, voilà, tous à l'ENA. Non, mais Paul-Antoine.
Bah, attendez.
Quand je vous écoute parler, le problème est réglé, non?
Paul Président, et puis voilà, on a arrêté quand
même. Non, mais c'est vrai, non. Il dit qu'il faut faire polytechnique, l'ENA, vous touchez 10 000 euros et vous avez la sécurité assurée.
L'avenir.
Eh bien, que demande le peuple?
Ça s'appelle la médiocrité, mais je comprends ce qu'il dit, mais je comprends parfaitement. C'est bien de discuter comme ça aussi. Mais la force d'un pays, c'est créer les richesses. C'est parce que ces héros fonctionnaires ne créent pas de richesses.
Oui.
Les richesses, ce sont les entrepreneurs qui les créent. Donc il faut créer des richesses. C'est ça l'avenir.
Oui, mais sauf que justement, c'est ce que je disais, on ne soutient pas les entrepreneurs. Exactement. Et pour terminer, il y a un taux de chômage. En fait, le problème en France, c'est que le coût du travail est bien trop cher. Mmh. Les salaires, on dit toujours, par exemple, on parlait de la Pologne, les salaires en Pologne sont assez élevés. Mais le coût du travail est beaucoup moins important. C'est-à-dire que c'est plus rentable pour un chef d'entreprise française de délocaliser, surtout qu'on est dans le service maintenant. Donc avec Internet, on peut tout faire. Vous travaillez en France, vous avez vos
allez, je ralentis, vous avez 10 secondes.
Bah, vous avez vos clients en France, mais vous pouvez travailler avec des gens en Pologne, en Roumanie, etc. Le problème, pourquoi les gens font ça, c'est pas parce que les salaires sont moins bas, c'est parce que le coût du travail est trop important.
Merci Paul Antoine, merci Karim Malou, merci Maître David Miskin, merci Henri Pomont, merci monsieur, débat très passionnant.
Merci beaucoup,
merci à Tarek à la réalisation. Passez un très très bon week-end avec les programmes sur Beurre FM. Ce soir, c'est Philippe que vous allez retrouver évidemment. Vanessa, tout à l'heure à midi pour les petites annonces. Quant à moi, je vous retrouve, vous savez, lundi avec une interview exclusive.
Ah,
vous savez de qui il s'agit?
Non. Ah bah, on
je peux le dire maintenant.
Oui.
Allez.
C'est Darmanin.
Darmanin.
Des préfets, etc. C'est soit le président.
Exclusif. Non, je vous le dis. Exclusif.
Darmanin, c'est pas mal.
Elle dure. Excellent. Interview tête à tête. Exclusif pour Beurre FM. Je vous le dis, on aborde les questions qui fâchent. L'immigration, la sécurité, le rapport sécurité
politique.
C'est fait. Donc lundi, rendez-vous normalement si tout va bien, 10h et toutes les
écoutez Beurre FM donc lundi.
Allez. Absolument. Donc à lundi, 10h.
Ok, on lâche rien sur toi.
Et puis la vidéo aussi, ça sera filmé, bien sûr. On lâche rien. Bon week-end à vous pour Nessandou.
Bon week-end.
Merci, bon week-end.
Allez, merci.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.